Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, ici votre invité du podcast préféré qui retourne du côté du micro de l'animation. Je suis en compagnie de Miguel aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ça veut dire que Florence n'est pas là. Notre Florence nationale va nous manquer cette semaine parce qu'elle a eu une petite opération au genou, là, fait qu'on voulait pas trop la déranger, on voulait la laisser se reposer. Donc elle va sûrement être de retour avec nous pour les prochains épisodes, on lui souhaite un très bon rétablissement.
Oui, on sait vraiment. Sinon, par rapport à l'épisode, on a rencontré Francis Cortellino, qui est économiste pour la CHL, spécialiste en crise du logement. C'était vraiment intéressant. On a pu apprendre des informations par rapport à l'offre, la demande, les solutions. Et ben oui.
Ouais, puis ça a été vraiment intéressant parce que c'est un sujet qu'on entend partout, la crise du logement, depuis des années. Puis, tu sais, oui, en étudiant en économie, on a compris un peu c'était quoi, on a compris les enjeux, mais. On a vraiment fait un tour global de la situation avec lui cette semaine, puis je pense que vous allez avoir du fun à écouter ça, surtout pour ceux qui cherchent un logement. Là, on va voir si on voit peut-être un horizon d'espoir pour vous dans les prochaines années ou les prochains mois.
Donc, une maison, peut-être.
Ouais, ou une maison, on vous le souhaite, ça c'est encore mieux. Donc, sur ce, bonne écoute à tous.
Bonne écoute.
Donc, bonjour à tous et merci à notre invité, M. Francis Cortellino, de nous accorder un peu de temps. Bonjour, M. Cortellino, ça va bien?
Bonjour, ça va bien, vous? Ça va bien?
Ben oui, merci beaucoup. Juste pour commencer une entrevue de façon un peu plus, casual, on va commencer avec une petite question. On aimerait ça que vous nous parliez de votre parcours, que ce soit académique ou professionnel, qui vous a mené à où vous êtes en ce moment.
Je vais quand même assez aller rapidement. Ben, j'ai fait sciences humaines avec maths au cégep, puis je ne savais pas trop quoi faire au cégep, pour être honnête. Donc, j'ai fait sciences humaines, mais j'ai toujours en blague avec maths. C'est important de dire avec maths. Puis, pendant les cours de sciences humaines, ben, il y avait plusieurs cours différents. Puis, économie, je pense, c'est celui que j'ai le plus cliqué, à comparer, par exemple, sociologie ou anthropologie, etc. Donc, j'ai plus cliqué là-dessus. Puis, ça m'a amené après à l'université à commencer à faire des cours d'économie. Puis, je pense que j'ai toujours aimé la partie un peu sciences humaines de l'économie, mais aussi la partie quantitative, où on essaie de prouver ou modéliser pour voir qu'est-ce qu'on affirme comme théorie, comme hypothèse, font du sens. Je ne suis pas un bon économète, donc je vais l'avouer tout de suite. Là, j'ai des collègues très bons économètes là, qui font juste ça. Je ne suis pas un bon économète, mais j'ai toujours aimé au moins ce souci d'essayer de prouver ou de valider des hypothèses qu'il y avait par rapport à ce qu'on observe. Puis, j'ai fait ça, mes études à l'Université de Montréal pendant bac maîtrise. J'ai fait ma scolarité de doctorat. Par contre, je me suis rendu compte au début de la thèse, après presque un an, que c'est vraiment une vocation, là, je pense, de devenir chercheur là, dans le milieu universitaire. Puis, j'étais pas fait pour ça. Donc, j'ai commencé à chercher un boulot. Je travaillais pour une association de consommateurs là, qui allait à la régie du logement pour les tarifs d'hydro, etc. à l'époque, là, pendant quelques mois. Puis j'avais un ancien collègue d'université, un ami qui avait travaillé à la SHL comme économiste, puis il avait des postes ouverts. Donc, c'est là que mon histoire a commencé à la SHL. Puis depuis ce temps-là, je suis là-bas, puis j'aime bien l'équipe, puis j'aime bien aussi le marché d'habitation. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pas, disons, un long fleuve tranquille. Donc, c'est un job assez plaisant, pour être honnête, là.
Oui, parfait. Ben, je me reconnais beaucoup dans votre parcours, surtout au niveau du cégep. Là. Moi, je pense que moi aussi, j'étais dans la même situation. J'ai fait sciences humaines, puis je ne savais pas trop quoi faire. Puis mon cours d'économie a été mon cours préféré. Fait que
c'est ça qui m'a fait faire le saut. C'est la même affaire, cégep, avec des maths. Bon cours dans l'économie, j'ai aimé ça.
Je pense que c'est un parcours assez typique en économie, ce parcours-là. Bon, ben là, on va commencer à parler un peu plus du sujet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la crise du logement? Mais dans le fond, ça fait quelques mois qu'on parle beaucoup de crise du logement au Québec.
Même année, je dirais.
Ouais, même année, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que vous pourriez nous brosser un peu un historique des événements? C'est quoi l'état des lieux en ce moment? Comment on est arrivé là, dans le fond, à cette crise du logement?
Oui, mais c'est quelque chose qu'on parlait des fois peut-être un peu plus, même ailleurs au pays, il y a très longtemps, Toronto, Vancouver, t'as souvent mentionné. Un peu moins au Québec, peut-être Montréal. Puis, je pense depuis peut-être 10-15 ans environ, il y avait une certaine détérioration de l'abordabilité. C'est qu'on ne construisait peut-être pas assez de logements pour les besoins qu'on avait, mais quand même, on a toujours des conditions de financement qui étaient assez basses. Les taux d'intérêt étaient faibles. La croissance de population était peut-être plus faible, beaucoup plus faible de ce qu'elle est présentement. Donc, la banque se détériorait graduellement un petit peu par petit peu, mais c'est un peu caché par le fait que les taux étaient bas, puis la population n'augmentait pas beaucoup, donc on sentait un peu moins. Puis je pense que quand les taux ont commencé à augmenter de façon très rapide, de façon successive, puis c'est difficile de construire, en ajoutant la croissance de la population au record qui augmente de beaucoup les besoins de logement, mais ça fait en sorte que tous les petits problèmes qu'on avait accumulés à travers les années, de ne pas construire assez, peut-être de réglementation des fois trop stricte, pas assez de productivité, pas assez d'innovation, bien, ça nous a rattrapés. Puis là, en ce moment, je pense qu'on vit dans le pire des moments depuis un bon bout de temps, là, avec l'accumulation de ces petits problèmes-là, dans un contexte où la demande est forte puis qu'on n'a pas été capable de suffire, ils ont besoin depuis plusieurs temps.
Tu as parlé d'un manque de logement à Montréal. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres villes québécoises qui vivent aussi ces crises-là? Ou c'est seulement un problème montréalais?
Non, c'est un problème maintenant un peu partout. C'est sûr que il y a certaines régions du Québec, par exemple, si je regarde les cartes de revenus, le revenu de ménage à Sherbrooke par rapport au prix d'une habitation, puis à Montréal, c'est sûr que Montréal, c'est pire que, par exemple, Sherbrooke ou d'autres régions, Drummondville ou peu importe, tu sais. Par contre, ces défis-là commencent à augmenter un peu partout. Puis on pourra en parler tantôt, mais même pour le taux d'inoccupation, si on regarde le marché locatif seulement, au début des années 2000, on parlait beaucoup de la crise du logement, mais c'était très montréalais ou très Québec. Là. Tu sais, c'est les taux d'inoccupation sont en bas d'un pour cent, c'est difficile de louer. Mais la dernière année qu'on a fait notre enquête en fin 2023, mais les taux d'inoccupation partout au Québec, peu importe la région grande, moyenne, petite, c'est en bas de 2 %. Puis de trois quarts des régions du Québec, c'est 1 % au moins. Donc, c'est à l'échelle du territoire. Les hausses de loyers sont records à l'échelle du territoire. Donc, en Estrie, à Montréal, en centre du Québec, peu importe où vous allez, l'abordabilité se détériore. Donc, je dirais qu'il y a eu un effet un peu de contagion dans les dernières années, là, pour faire de mauvais genoux avec la COVID, mais quand même, on a vu... Et la COVID a en fait un impact là-dessus. On en parlera tantôt sur la migration entre les régions du Québec. Mais il y a eu un effet de contagion là, de problèmes d'abordabilité qui sont répandus, je pense, pendant la pandémie. Puis maintenant, tous les territoires sont touchés, dans différentes ampleurs, mais quand même, tout le monde est quand même touché par le problème actuel.
Oui, bien ça, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, moi, je viens d'un petit village de campagne, puis juste avant d'arriver à Sherbrooke, à l'université, je connaissais pas ça, la crise du logement. Tu sais, j'en entendais parler dans des grandes villes, justement, comme tu as mentionné, Vancouver, Toronto, un peu Montréal. Puis, tu sais, je me disais, ah, tu sais, c'est peut-être pas un problème qui va me toucher, mais je m'en suis rapidement rendu compte que depuis une couple d'années, c'est plusieurs villes au Québec qui en souffrent. Puis là, justement, on entend parler beaucoup, puis on va tu viens de mentionner certains facteurs. Tu as parlé de peut-être la hausse de l'immigration, les taux d'intérêt, etc. Mais là, on aimerait ça décortiquer un peu ça en deux côtés. Il y a le côté de l'offre puis de la demande. Fait qu'on va commencer par parler du niveau de la demande de logement. C'est quoi les facteurs économiques qui font en sorte que la demande de logement va augmenter ou a augmenté dans les dernières années?
Bien, un des gros facteurs, c'est bon, la croissance économique. Les gens ont des emplois, demeurent aux emplois, ont des hausses de revenus, ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent acheter un logement. Donc, si on sort du marché locatif ici, donc des gens qui achètent un logement. Et lorsque les revenus aussi ont beaucoup augmenté, qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est que les gens vont avoir des résidences secondaires. Donc, les gens vont avoir deux logements, des fois trois logements. Certains vont être en location, mais des fois, ils vont garder juste un pour un pied à terre. Et les gens aussi avec des revenus plus élevés, souvent, ils vont se faire construire des plus grosses maisons. Donc, ça coûte plus de terrain aussi. Donc, il y a aussi là l'impact là, que la demande augmente. Il y a des gens qui ont des résidences secondaires, ça, des grosses maisons, ça coupe du terrain. Donc, ça va faire en sorte que, grosso modo, on baisse un peu le potentiel de mise en chantier dans le futur avec ces maisons un peu plus que celui-là. Donc, je dirais, grosso modo, taux d'intérêt, emploi, revenu, taux d'intérêt, ça va jouer aussi surtout pour la demande, pour les gens qui veulent acheter. Du côté de la demande. Donc, c'est quand les taux d'intérêt sont faibles, mais les paiements hypothécaires pour un condo, l'achat d'une maison devient plus faible aussi. Donc, ça va stimuler la demande. Et du côté locatif, c'est sûr que souvent, les gens dans le marché locatif, je dirais généralement, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des hauts revenus qui vont louer un appartement. Là, ça arrive. Mais lorsqu'on regarde les données, la plupart des locataires, souvent, c'est des ménages avec des revenus un peu plus faibles qui peuvent difficilement accéder à la propriété. Donc, ça, généralement, c'est ça qu'on va remarquer, mais qu'il y a quand même des exceptions.
Par rapport au logement et à la propriété, est-ce que tu distingues une grosse différence entre les deux? Puis si oui, est-ce qu'il y a une influence entre les deux? Est-ce qu'il y a une dynamique entre les deux?
Oui, il y a une dynamique entre les deux. Donc, souvent, là, par exemple, la plus grande dynamique, c'est quand les jeunes, souvent, sont locataires. Quand on est dans trentaine, vingtaine, trentaine, et des fois même un peu début quarantaine, on va être locataire. Puis éventuellement, on va accéder à la propriété. Des fois, le couple se forme, une famille, etc., en vouloir acheter un condo ou une maison. Par contre, des fois, les conditions ne sont pas réunies pour faire ça, puis en ce moment, c'est le cas. Les taux, les, il y a eu des hausses de prix fulgurantes au cours des dernières années. C'est très difficile d'acheter une propriété. En ce moment, les taux hypothécaires ont augmenté, ça fait augmenter les paiements, donc c'est encore plus difficile. Puis on peut aller voir dans les données du recensement un peu si les taux de propriétaires, taux de locataires par groupe d'âge. Puis qu'est-ce qu'on remarque un peu partout au Québec, puis dans la plupart des grands centres là, du Québec, c'est que de 2001 à 2011, les jeunes étaient de moins de 35 ans étaient de moins en moins locataires, donc de plus en plus propriétaires. Puis à partir là, du 2011-2015 environ, on a vu un renversement de situation où les jeunes de moins de 35 ans étaient plus locataires que les jeunes du même âge il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc, ça indique qu'il y a une difficulté d'accéder à la propriété. Et là, les données du recensement vont arrêter en 2021, comme vous le savez probablement. Puis en 2022-2023, avec les hausses de taux qu'on a eues, les hausses de prix qu'on a eues pendant la pandémie, ça doit être probablement être empiré, cette situation-là, que les jeunes ont de la misère à accéder à la propriété. Et si les gens accèdent moins à la propriété qu'avant, ça veut dire qu'ils restent locataires plus longtemps. Ils ne libèrent pas leur logement. Et donc, ça vient mettre de la pression de la demande du marché locatif. Donc, cet effet-là de chaîne qui est un peu brisé, là, que les gens libèrent leur logement locatif pour acheter un condo ou une maison, si on reste dans leur appartement, ça garde la pression sur le marché locatif, puis ça, encore une fois, ça fait en sorte que les taux d'occupation restent faibles. Là. Il y a d'autres facteurs, comme on peut en parler, la migration là, qui change un peu la donne, mais quand même, l'accession à la propriété qui est rendue difficile, je pense que c'est un élément aussi très important qui explique un peu pourquoi la demande sur le marché locatif est aussi forte présentement.
Ouais, je peux confirmer qu'en tant qu'étudiant en ce moment, l'accès à la propriété, il me semble assez loin en ce moment. Je pense pas qu'à 30, ben peut-être qu'à 35 ans, je vais être rendu là, mais en tout cas, je le souhaite. Mais je pense pas qu'en ce moment, c'est dans mes plans.
Un bon CELIAP, on le roule bien là.
Au moins, ils nous ont offert les CELIAP, c'est déjà un bon début. Puis aussi, on voulait savoir pourquoi est-ce qu'au Québec, puis dans la région comme de Montréal, les maisons, les logements sont encore plus abordable ou en tout cas un peu inférieur au prix qu'on voit dans les autres grandes villes comme Vancouver ou Toronto, que tu sais, on en entend souvent parler que le prix des maisons n'a aucun sens, que le prix des logements n'a aucun sens là-bas.
Oui, bonne question. Donc, si on regarde, on commence par le locatif. Tu sais, Montréal a le plus gros parc locatif au pays, la région de Montréal, là, puis en général, la province de Québec a le plus gros parc locatif du pays. Et là, je ne parle pas des condos en location, là, qui est un autre produit, mais vraiment l'appartement, disons, locatif standard, l'immeuble standard locatif. C'est le plus gros pays, donc c'est sûr que ça aide, quand l'offre est plus présente, plus omniprésente, à garder une certaine pression à la baisse sur les prix, sur les loyers. Et après ça, je vais tricher un peu, je vais sortir de la demande, je vais peut-être aller un peu dans des facteurs d'offre, mais il y a beaucoup aussi de questions des fois de zonage, de réglementation qui peut rentrer en ligne de compte. Par exemple, Toronto, Vancouver, souvent, il y a beaucoup du territoire dans ces villes-là qui est zoné unifamilial. Puis lorsque quelqu'un veut acheter, par exemple, une maison, puis la mettre à terre pour mettre un bloc de 6-8 logements, il peut avoir de la résistance citoyenne parce que ça ne fait pas partie normalement du paysage. Et là, les villes, les provinces commencent à changer les règlements pour avoir de la densité parce que ça n'aide pas la situation de personne si on peut juste mettre de la maison familiale toujours. On peut mettre un peu plus de densité. Il y a aussi des fois des contraintes de terrain. Des fois, au Québec, on est un peu plus chanceux qu'ailleurs. On peut avoir plus de terrain à développer. Tu sais, à Vancouver, ils sont entourés de la montagne puis de l'océan, donc ça limite aussi des fois le développement là, en termes de terrain disponible. Donc, ça fait en sorte aussi qu'il va y avoir des différences entre les secteurs. Des fois, les industries, les revenus des ménages aussi font en sorte que si les ménages ont plus de capacité, ça peut faire en sorte qu'ils vont avoir mettre plus de pression sur l'achat, acheter des trucs. Donc, ça, des facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il y a des différences. Puis, je pense qu'on peut rentrer aussi dans la croissance de la population, que des fois, qui était plus forte ailleurs qu'au Québec. Là, au Québec, c'est rendu très élevé aussi, comme un peu partout au pays. Là, on a eu les données de Statistique Canada ce matin sur la migration internationale, donc les immigrants permanents, mais c'est surtout en ce moment les travailleurs, les demandeurs d'asile, étudiants internationaux et travailleurs temporaires, donc ce qu'on appelle les résidents non permanents. C'est pour donner une petite idée, au Québec, il y a peut-être une dizaine d'années, on recevait de l'étranger au net, là, disons 40 000 personnes, grosso modo. Puis cette année, en 2023, on en a reçu à peu près 220 000. Ça, c'est 220 000 personnes à loger. Donc, c'est sûr, c'est des personnes, là, ça forme des ménages, puis ça loue des logements. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnes à loger. La plupart d'entre eux, lorsqu'ils arrivent, là, surtout les résidents non permanents, ils vont dans le marché locatif. Donc, c'est sûr, ça vient mettre beaucoup de pression. Et pour revenir à la pandémie, je parlais un peu de contagion tantôt. Pendant la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont quitté les grands centres comme Montréal pour aller en banlieue, mais même un peu plus loin partout au Québec, puis des gens qui ont quitté la banlieue pour aller vivre un peu plus loin aussi au Québec, par exemple en Estrie, dans la région de Sherbrooke. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de ces gens-là qui ont quitté, par exemple, Montréal. Il y en a qui ont acheté, mais il y en a beaucoup qui sont allés louer aussi. dans les autres centres du Québec. Donc, c'est un peu cette idée-là de contagion que tout ce mouvement de population-là pendant la pandémie et de mettre de la pression sur les marchés locatifs des autres régions au Québec là, qui ont connu disons, un essor important du nombre de la population parce qu'il y avait tous ces gens-là qui partaient de Montréal pour déménager. Puis l'Estrie n'a pas été épargnée par ça. Donc, plusieurs personnes sont arrivées là-bas. Il y en a qui ont loué et c'est de mettre de la pression sur le marché locatif. Donc, la migration, c'est un autre phénomène qui peut varier d'une province à une autre, mais aussi à notre plus petite échelle québécoise. Ça peut aussi avoir un impact là, sur les différents marchés à l'intérieur de la province.
Oui, je pense que c'est un facteur qui a touché pas mal tout le monde. Là. Moi, je m'en souviens au début fin pandémie. J'habite dans un petit village de campagne pas loin de Joliette. C'était à 1 heure de Montréal à peu près. Puis tout d'un coup, toutes les maisons se vendaient, tous les petits logements qu'il y avait se louaient. J'en revenais pas, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait.
Oui, c'est un exemple typique là, de. Les gens parlent souvent, c'est les gens partent de Montréal pour aller en banlieue, mais c'était vraiment ce cas-là. Les gens partaient de Montréal et de la banlieue pour aller vivre plus loin, un peu partout au Québec. Puis les impacts se sont ressentis partout. Puis souvent, en plus, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que la construction d'appartements est beaucoup dans les grands centres. Là. Fait que, par exemple, des secteurs comme Joliette ou d'autres avaient beaucoup de nouveaux citoyens qui arrivaient, mais la construction n'a pas nécessairement suivi le rythme de cette augmentation-là de population. Puis ça met beaucoup de pression sur des marchés de cette taille-là.
Intéressant. Je sais que tu as commencé un peu à parler sur l'offre Vancouver, Toronto, la différence. Je me demandais aussi au niveau de l'offre actuellement, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de construction qui se fait de logements. Je me demandais pourquoi ça augmente pas assez vite à notre goût.
Bonne question. Je vous dirais que pendant la pandémie, il y a eu quand même des bons volumes là, de mise en chantier. Il y avait plusieurs personnes qui avaient des besoins en habitation, des nouveaux besoins, voulaient la cour, l'espace bureau, là, etc. Donc, la demande au rendez-vous. Puis, pour les promoteurs, je dirais qu'il y avait quand même quelques nuages gris. Là. Les coûts des matériaux avaient beaucoup augmenté, le coût de la main-d'œuvre. Des promoteurs ils me disaient des fois, c'est difficile d'avoir deux soumissions pour, par exemple, un certain corps de métier pour venir faire quelque chose sur un projet. Donc, il y a beaucoup de défis. Par contre, les taux étaient très bons. Les conditions de financement étaient très bonnes et ça permettait. Malgré les embûches de coûts, d'avoir des montages financiers qui peuvent se réaliser quand même et de faire des projets. Quand est arrivée la hausse des taux en printemps 2022, puis tous les taux qui ont commencé à augmenter, mais les coûts de financement sont devenus très, très élevés pour les promoteurs, puis là, la chaîne a débarqué. Disons ça comme ça au Québec, puis dans le cas de Montréal. Là. C'est très difficile de faire des projets résidentiels, même si les coûts des matériaux de main-d'œuvre s'étaient stabilisés, dans certains cas baissés, les coûts avaient tellement augmenté avec. La hausse des taux d'intérêt qui s'est rendu très difficile de faire des projets. Puis on a vu cette chute-là, très importante, là, des mises en chantier. Donc, je dirais ça, c'est le plus gros peut-être facteur qui fait en sorte que les mises en chantier baissent. Mais encore une fois, quand on parle à des promoteurs, souvent, sous le radar aussi, ils vont beaucoup parler de la réglementation municipale, les temps que ça prend pour avoir les permis, tous les types de règlements qu'il faut respecter. Bien, c'est normal d'avoir des règlements, on ne veut pas construire n'importe quoi. Mais des fois, c'est juste que plus c'est long à attendre pour avoir son permis, etc., mais plus que les coûts que doit supporter le promoteur pendant qu'il attend augmentent aussi. Et ça, en bout de ligne, ça se retrouve dans le loyer ou dans le prix du condo de la maison. Donc, il refait ça directement au consommateur. Puis aussi, il commence à avoir de plus en plus de villes au Québec. C'est déjà quand même établi dans le reste du pays, mais où on peut demander ce qu'on appelle des charges de développement ou des frais de développement au promoteur. Donc, par exemple, si tu construis un bloc de 20 unités, mais pour chaque unité, tu vas mettre 4 000 en frais. Et ça va me servir à payer des services dans la ville, grosso modo. Puis ça aussi, ça va être reflété directement aux consommateurs. Donc ça, c'est toujours un truc qui est sous le radar des promoteurs qui aimeraient ça, surtout, raccourcir les temps d'approbation pour ne pas supporter ces coûts-là. Les promoteurs vont souvent parler que même s'il y a des coûts à payer, ils aiment ça quand c'est prévisible. Eux, ils adorent la prévisibilité, ils n'aiment pas l'incertitude pour savoir où ils s'en vont, combien de temps ça va prendre. Comme ça, ils peuvent faire un montage financier qui se tient dans le temps et qui va leur permettre de faire un projet. Donc ça, c'est, je pense que plusieurs villes, même qu'en ce moment, lorsqu'on leur parle, là, veulent avoir un changement de culture pour tenter là, d'être plus efficaces et de trouver des solutions quand ça ne fonctionne pas avec le règlement. Donc, tenter d'aider à ajouter de l'offre sur le marché. Ça reste un gros défi parce que j'ai le dilemme pour les villes, c'est que d'un côté, ils veulent mettre plus de logements sur le marché, sur leur territoire. Donc, je pense que cette volonté-là. Mais de l'autre côté, les villes veulent avoir des revenus pour financer leurs services municipaux. Puis souvent, les villes vont dire on n'a pas beaucoup d'argent, on est un peu cassé. Puis une façon d'avoir des revenus pour financer les services, c'est de mettre des frais sur les nouveaux logements. Ils sont comme pris dans un dilemme de on veut des logements, mais on va avoir des revenus aussi. parce que les villes dépendent beaucoup de la taxe foncière en termes de revenus pour financer les services. Puis là, ça ouvre la boîte là, de la fiscalité des municipalités. Quelle source de revenus peut avoir les municipalités? C'est une grosse question. Il n'y a pas de réponse évidente. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Le gouvernement du Québec a laissé certains pouvoirs de taxation aux villes récemment. Mais c'est, ça rentre là-dedans, puis ce n'est pas une question qui est facile à répondre, mais ça reste quand même un défi pour les prochaines années, je pense, d'améliorer aussi la coordination entre les différents paliers de gouvernement et avec le monde municipal aussi pour avoir plus d'offres qui arrivent sur le marché. Dans un contexte où on l'espère, les taux vont baisser et que la cadence de mise en chantier pourrait reprendre éventuellement.
Oui, OK. Ben, je sais que tu as mentionné un peu certaines réglementations qui venaient peut-être un peu freiner le marché de la construction immobilière en ce moment. Puis nous, on avait un exemple. Tu sais, on sait qu'il y a 5 corps de métiers de la construction en Ontario, mais il y en a beaucoup plus au Québec. Fait que ça empêche certains travailleurs, des fois, de réaliser des tâches qu'ils seraient peut-être capables d'effectuer. Est-ce que ça a un impact aussi à un certain niveau là, sur la construction des logements?
Bien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Tu sais, avec la situation actuelle, je pense qu'il faut retourner chaque pierre. Là. On ne peut pas dire qu'on ne regardera pas ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être regardé, puis évaluer à quel point ça peut augmenter donc, l'efficacité sur les chantiers, les chantiers là, où on fait des projets. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les données, c'est que l'industrie de la construction a eu très peu de gains de productivité, disons, au cours des dernières décennies. Moi, il y a déjà un promoteur qui me dit à la blague, là, puis il exagérait pour faire son point, mais il me dit, tiens, on construit les maisons qu'on construit aujourd'hui, on les construisait de la même façon il y a 100 ans, t'sais. Ça prenait autant de temps, puis juste pour dire qu'il n'y a plus vraiment de gains importants en productivité, comme ça peut être le cas dans d'autres industries, on a automatisé. Ouais. Donc, on passe ça maintenant au Québec aussi, puis un peu ailleurs, peut-être de regarder plus la préfabrication, faire une partie en usine, puis l'amener sur le chantier. Même le chantier, avoir peut-être certains trucs faits par certains robots, on pourrait dire ça en guillemets, là, des trucs automatisés. Je pense que ça amène aussi la question de pénurie de main-d'œuvre. Il y a plusieurs milliers de travailleurs de la construction qui vont prendre leur retraite au cours des prochaines années. Et ça va prendre aussi plusieurs nouveaux travailleurs dans cette industrie-là pour les remplacer. Possiblement qu'ils ne seront pas suffisants là, pour remplacer la tâche. Donc, ça va falloir avoir des manières de comment les rendre aussi plus productifs, d'augmenter leur output pour avoir moins de personnes qui travaillent sur les chantiers au cours des prochaines années. Puis encore une fois, il faut trouver l'innovation, le préfabriqué, l'automatisation. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Les corps de métier, comme tu mentionnais tantôt, peuvent en être une. Le gouvernement du Québec a mis des bourses aussi en ce moment pour attirer des personnes dans l'industrie de la construction pour augmenter le bassin. Donc, encore une fois, il y a plusieurs pistes de solutions possibles, mais il faut vraiment s'y attaquer parce que si on veut vraiment augmenter la cadence là, de production de logements, mais ça va prendre des bras. Puis ça va prendre aussi de la machinerie plus meilleure que celle qu'on a présentement là, pour augmenter cette cadence-là.
C'est intéressant.
OK, ouais, c'est quand même assez intéressant. Puis là, je sais que vous venez de parler un peu des problèmes de main-d'œuvre qui affectent un peu l'offre de logement. Puis on se demandait pourquoi est-ce que l'industrie québécoise de la construction compte une moins grande proportion de travailleurs immigrants par rapport au reste du Canada. Est-ce que c'est un facteur qui, ça aussi, vient nuire à peut-être notre industrie ou c'est juste une coïncidence que ça arrive?
Bien, c'est une bonne question. Puis pour être honnête, j'ai pas toutes les réponses à ce sujet-là. Par contre, souvent, les travailleurs ou les règles qui régissent les travailleurs sont différentes d'une province à une autre, les compétences, comment elles sont acceptées ou qu'est-ce qui est permis à un travailleur de faire étant donné telle ses cartes là, de chantier, etc. Donc, c'est quelque chose qui est à revoir de ce côté-là, mais c'est sûr que lorsqu'on est dans un contexte où on accueille un nombre record de personnes de l'étranger, beaucoup de travailleurs temporaires, je pense que c'est quelque chose que le gouvernement regarde en ce moment, c'est d'accueillir de plus en plus de ces travailleurs-là temporaires qui pourraient travailler aussi dans l'industrie de la construction. Donc, les pourcentages qu'on a actuellement qui travaillent dans la construction sont minimes. Et donc, ça, il faudrait, je pense, éventuellement décider d'augmenter ces seuils-là pour faire en sorte que lorsque la main-d'œuvre arrive ici, oui, elle va consommer des services, donc c'est normal, mais aussi qu'elle puisse travailler dans l'industrie de la construction où les besoins là, en main-d'œuvre sont très importants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à regarder, qui est déjà regardé, mais qu'il faut continuer à pousser là, au cours des prochaines années.
Vraiment.
Ouais.
C'est important. Mm-hmm. Si tu loges, il faut aussi que tu construis un peu des bâtiments pour égaliser ça. Sinon, on se demandait aussi, au niveau de la logique économique classique, lorsque la demande augmente et les prix augmentent, les producteurs devraient produire en masse pour que ça égalise. On se demandait pourquoi ce n'est pas le cas actuellement. Est-ce qu'il y a un problème d'incitatif, par exemple, pour au niveau financier, au niveau fiscal?
Bien, je dirais une chose que que j'ai appris depuis que j'ai quitté les bancs d'université. C'est une grosse différence entre la théorie classique puis la réalité terrain. Donc, c'est deux mondes assez différents. Tu sais, comme j'en parlais tantôt, là, il y a certaines villes aux États-Unis, c'est un peu plus, je dirais, comme ça, c'est qu'il y a des terrains, puis on va voir la ville, puis je fais ça, puis je vais mettre une tour de 200 appartements à côté des maisons de familles à côté, pas de problème, même si architecturellement, ça ne fit pas, là. Donc, on va construire, puis on donne le permis, puis ça va vite. Donc, je dirais, des fois, il y a certaines villes aux États-Unis où c'est peut-être un peu plus comme ça. Puis on va voir dans ce cas-là, il y a des villes en ce moment aux États-Unis qui ont construit beaucoup, que les loyers baissent, par exemple. Donc, ça donne un impact sur... Il y avait beaucoup de demandes, les loyers augmentaient, puis on construit beaucoup, puis là, les loyers stabilisent ou commencent à baisser. Par contre, dans la réalité de terrain, souvent, des projets, dans le cas de Montréal, par exemple, tu veux faire un projet d'une certaine densité, disons une tour, là, mais entre l'idée de ton projet puis la première pelletée de terre, il peut y avoir un 3-4 ans entre les deux. Hein. Donc, ça prend du temps. Les études de marché, les terrains, avoir toutes les approbations requises, les permis. Quand on fait du condo, souvent, par exemple, dans le cas des condos, avant qu'un projet débute, souvent, les banques, avant de donner le financement, vont vouloir que 70 % des condos soient vendus sur plan. Et donc, il y aurait juste un 30 % à vendre pendant la phase de construction ou à la fin quand c'est construit. Donc, ça prend du temps. Tout ça, c'est dans un contexte peut-être où la demande est moins forte. Donc, encore une fois, c'est long, construire des immeubles. C'est beaucoup de processus à respecter. Et encore une fois, c'est normal d'avoir des règlements pour ne pas construire n'importe quoi. Mais malgré même dans les contextes de taux faibles, de taux hypothécaires, ça peut prendre du temps à faire un projet. Donc, l'impact n'est pas immédiat. Et à ce sujet-là, j'ai un des collègues qui a fait une étude de quelques années où on avait regardé un peu l'élasticité de l'offre de logement. Puis, on avait comparé des grandes villes canadiennes, là, Alberta, qui est peut-être le marché le moins réglementé, on pourrait dire. Vancouver et Toronto, qui sont pas mal dans les plus réglementés là, en termes de temps d'approbation, frais, tous les règlements respectés. Puis Montréal était un peu entre les deux. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarquait, c'est que l'offre réagissait plus rapidement, par exemple, en Alberta, parce que le marché était un peu moins réglementé. Toronto-Vancouver, c'est les marchés où il y avait le moins de réponses de l'offre, même dans un contexte de forte demande et de hausse de prix. Donc, encore une fois, on peut voir, je pense, toute la partie, encore une fois, de la réglementation qui est là, qui a un impact sur le temps de réponse que pour avoir de l'offre sur le marché. Et ajouter à ça un contexte où les taux d'intérêt sont très élevés comme en ce moment, ça devient de plus en plus difficile. Puis, bon, moi, je travaille à la CHL, puis je ne vais pas aller dans le détail technique, mais on avait un produit, disons, d'assurance qui permettait aux promoteurs de certaines flexibilités pour faire en sorte que le montage financier fonctionne mieux, s'y mettre du logement abordable, du logement avec l'efficacité énergétique, etc. Puis, pendant la pandémie, ce produit-là est devenu très populaire, là, ce produit de la CHL, parce que, dans le fond, c'était la seule manière pratiquement de faire des projets qui fonctionnaient. Puis, ça a donné pour le Québec là, des milliers d'unités qui se sont servies de ce produit-là. Puis, encore une fois, ce n'était pas le but d'avoir autant de demandes là, de logements qui passent à travers la CHL. Tu sais, les banques standards ont des projets aussi là, qui rentrent dans leur dos. Ils ont des dossiers de banque, puis ils font du financement aux promoteurs. Mais pendant les derniers trimestres, je dirais grosso modo, c'était tellement difficile que là, on a dû passer par certaines flexibilités de produits par le gouvernement fédéral, par la CHL. Mais ça vient s'ajouter, je pense, à toutes les autres couches de difficultés qu'on a eues au cours des derniers trimestres.
Votre projet, c'est par rapport au logement abordable. C'est une partie qui est créée. Ils ont comme un rabais. C'est ça environ, c'est ça?
OK. Je ne vais pas aller trop de technique, mais c'est qu'il y avait plusieurs composantes possibles. On peut faire soit du logement abordable ou en efficacité énergétique ou accessible. Puis, donc, ça peut être un mélange des trois ou juste un des trois, là, donc on peut choisir. Puis, grosso modo, là, comment je peux faire ça sans trop de détails techniques, c'est souvent, on va prendre un projet locatif. C'était juste pour du projet locatif. Donc, dans un projet locatif, supposons que le promoteur va voir la banque. La banque va regarder, OK, voici le revenu de tout. Si tu loues tes logements, ça va être ça ton revenu. Puis, en plus, pour t'entretenir l'immeuble, tu payes peut-être l'entretien puis l'électricité d'un corridor, tout ça. Là. Bon, voici tes revenus nets puis voici ton paiement hypothécaire qui tient compte du prêt que je te donne parce que tu as des coûts de construction, le terrain payé, tout ça. Puis souvent, les banques vont demander un certain écart entre ton revenu, ce que tu tires du loyer et ton paiement hypothécaire. Ils vont demander un certain écart pour gérer le risque, dire que ce n'est pas un projet risqué, j'embarque dans le projet. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la hausse des avec la hausse des taux d'intérêt, c'est que là, pour faire en sorte que les promoteurs puissent passer à travers la banque, c'était que les revenus, tu ne peux pas augmenter le loyer à l'infini non plus. Là, fait que les loyers étaient pas mal un certain maximum. Donc, les revenus étaient un certain maximum, mais les paiements hypothécaires étaient très élevés parce que les coûts de construction étaient très élevés avec les taux d'intérêt. Et là, le promoteur, au lieu de mettre 5 % ou 10 % de mise de fonds dans le projet à la banque, pour que le projet fonctionne, il fallait qu'il mette 45-50 % de mise de fonds. Les promoteurs disent « j'ai pas 45-50 % de mise de fonds à mettre dans le projet ». Et donc, qu'est-ce que la SHL permettait, grosso modo, c'était de dire, bien, l'écart entre vos revenus que vous tirez des loyers et votre paiement hypothécaire, bien, la marge, normalement, que la banque veut avoir pour gérer le risque, mais nous, on va réduire cette marge-là, on va y aller un peu plus risqué, dans le fond. On va gérer le risque si vous faites du logement abordable, efficacité énergétique, etc. Et ça a permis à des promoteurs d'avoir des montages financiers, finalement, qui fonctionnaient. Donc, en échange que la SHL appuyait le projet et donc, disons, réduisait un peu l'écart entre les revenus nets et le paiement hypothécaire, mais en échange, le promoteur s'engageait à faire des logements soit abordables, soit en efficacité énergétique ou soit accessibles. Donc, c'est pas pour tous les logements. Donc, c'est très technique. Il y en a une page web, vous pouvez aller voir si vous voulez. Okay. Mais grosso modo, ça a permis de plusieurs promoteurs de venir un peu sauver le marché d'un dernier trimestre, parce que sans ce produit-là, il n'y a pas grand-chose qui serait construit là, au Québec récemment.
Oui, puis moi, je vais me permettre de faire un petit retour sur ce que tu as dit plus tôt. Là, je sais que tu as mentionné le fait qu'il y avait beaucoup de différences entre la théorie et la pratique en général, puis ça m'a quand même fait assez rire parce qu'on met tellement d'hypothèses en économie souvent dans certains facteurs que si tout pouvait se dérouler comme on l'avait prévu au départ, ça serait tellement plus simple que ce qui arrive. C'est assez impressionnant des fois le nombre d'hypothèses qu'on met pour essayer d'encadrer un marché. Puis je vais prendre l'opportunité que tu viens de finir pour enseigner sur un nouveau sujet. On a comme des sujets un peu plus comme des enjeux de la société en ce moment qu'on aimerait savoir quel impact la crise du logement a sur ces sujets-là. On en a trois à te suggérer, fait qu'on aimerait ça savoir. On va te les poser un après l'autre juste pour voir si tu vois que ça aurait des impacts là-dessus. Fait que premièrement, est-ce que tu penses que la crise du logement, ça a un certain impact sur le niveau d'itinérance en ce moment au Québec?
Bien, il y a eu des, je pense récemment, le gouvernement du Québec a fait un dénombrement, là, une estimation du nombre d'itinérants un peu partout dans la province, puis il y en avait plus, puis je pense qu'il y en avait, tu sais, avant c'était très montréalais, puis il y en avait un peu partout, puis je pense qu'il demandait aussi aux gens les causes aussi, puis je pense que le logement était une des principales causes de l'itinérance. Mais moi, personnellement, tu sais, quand je reste pas trop loin d'où j'étais quand j'étais jeune universitaire, là, je reste dans le même secteur, grosso modo. Puis quand je prenais le métro, tu sais, des fois, il y avait un itinérant dans le métro, là, puis ça arrivait une fois de temps en temps. Puis là, quand je passe là le matin, il y en a 3-4 à chaque jour. Là, tu sais, je pense qu'on le sent, là, ça se voit. Tu sais, tu vois les répercussions de la situation actuelle dans le logement, qui est difficile. Puis, encore une fois, ça va souvent toucher les ménages moins nantis aussi, qui ont certains autres problèmes là, personnels aussi dans la vie. Mais c'est sûr que le manque de logement fait en sorte qu'il puisse avoir des répercussions là, dans d'autres aspects de la société. L'itinérance en est un. Là.
Sinon, au niveau de la violence conjugale, par exemple, une personne qui est en couple, puis ils se séparent, puis le conjoint est violent, puis ils sont obligés de rester avec la personne. Est-ce que ça a un impact au niveau de la violence conjugale?
Oui, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on voit, c'est, tu sais, en termes de violence conjugale, où il y a des gens qui, des raisons personnelles, devraient déménager, tu sais. Ce serait le meilleur choix qu'ils pourraient faire. Par contre, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choix sur le marché. Certaines personnes vont s'empêcher de déménager et des fois dans des cas très graves, là, comme violence conjugale. T'sais, des fois, pour un emploi, c'est dommage, tu perds une opportunité, tout ça, mais dans le cas de la violence conjugale, je pense que c'est dans la liste très élevée des cas où les personnes devraient déménager, pouvoir déménager, ou aller dans des ressources, là, à tout le moins. Puis, l'Institut de la statistique du Québec a sorti des données là, la semaine passée là-dessus pour les déménagements. Puis en 2023, le Québec a atteint un creux dans le nombre de déménagements. Là. Donc, on n'a jamais été aussi bas dans le fait qu'il y a peu de personnes qui déménagent. Je pense que le logement, il y est pour beaucoup là-dedans. Donc, les gens n'ont pas d'option s'il faut qu'ils déménagent. Et s'ils déménagent, ils vont pas en payer plus cher ou ils vont arriver. Donc, il va y avoir un ajustement. Là, c'est un logement qui se libère, mais le propriétaire va prendre ajuster son loyer encore en regardant les comparables du marché. Donc, les gens déménagent de moins en moins. Puis, tu sais, de mémoire, les données de l'Institut de la statistique du Québec, je pense de 2002 à 2019, grosso modo, là, il y a peut-être 2,5 points de pourcentage de moins de population qui avait déménagé. Donc, c'est passé de 13 à 10, quelque, 10,5, près 2,5 % de la population de moins en points de pourcentage qui a déménagé. Ça, c'est après 20 ans. Puis depuis la pandémie, on a aussi perdu 2,5 points de pourcentage de gens qui déménagent, mais en seulement 4 ans. Donc, tu vois qu'on a la même baisse de déménagement en 4 ans qu'on avait eu 20 ans avant. Ça semble indiquer qu'il y a un certain problème sur le marché présentement. Et donc, ça, souvent, c'est un peu ce qu'on appelle les symptômes désagréables du manque de logement. Donc, le manque de logement, je dirais, c'est un peu comme la maladie. Puis les symptômes que ça crée, bien, c'est des évictions, des hausses de loyer qui sont très fortes, perte d'abordabilité, l'itinérance, peu de déménagement alors qu'il faudrait déménager. Et ces symptômes-là, souvent, on essaie de trouver des moyens pour contrôler les symptômes, c'est bien correct. Mais je pense qu'il faut trouver des moyens aussi pour s'attaquer à la maladie, parce que si on ne s'attaque pas à la maladie, qui est le manque de logement, les symptômes vont toujours trouver le moyen de refaire surface, là, peu importe les lois, règlements qu'on met en place. C'est malheureux, mais il faut s'attaquer vraiment au manque de logement sur le marché.
Oui, c'est sûr que c'est vraiment ça le problème principal en ce moment, on pense. Puis finalement, on aurait comme un dernier sujet, ça serait au niveau de l'insécurité alimentaire. Parce qu'on sait que c'est pas parce que les gens sont nécessairement en situation d'itinérance qu'ils ont de l'aisance financière. Tu sais, je veux dire, il y a 25 % des locataires au Québec qui consacrent environ 30 % ou même plus de leurs revenus juste en logement. Puis il y a même un presque 10 % des locataires qui consacrent 50 % ou plus de leurs revenus en logement. Fait que ça vient enlever des fonds disponibles pour se nourrir. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est un phénomène qui est causé à cause de la crise du logement, ou c'est un phénomène qui est plutôt normal?
Bien, tu sais, je pense que les gens qui paient trop cher leur logement ou qui ne mangent pas à leur faim, donc c'est malheureux. Je pense que je n'irai jamais à dire que c'est normal. Donc, dans un pays, je pense, aussi riche que le Canada ou une province aussi riche que le Québec, il faut trouver des solutions pour aider ces ménages-là. Je pense que le manque de logement, c'en est un, parce que c'est sûr que lorsqu'il manque de logement, les hausses de loyer deviennent plus fortes, puis c'est difficile pour les ménages. Tu sais, les ménages vont tout faire pour payer leur logement souvent. Puis même je sors un peu des ménages moins nantis pour aller dans les gens qui sont propriétaires. C'est avec les hausses de taux hypothécaires, ceux qui renouvellent leurs hypothèques. Qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils vont tout faire pour payer leur maison, leur hypothèque. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont mettre moins d'argent ailleurs, par exemple sur les sorties où ça peut être la nourriture, l'épargne. Des fois, des gens vont être en retard sur leur carte de crédit. Donc, ils vont avoir des problèmes avec d'autres lignes de crédit autres que la maison. Donc, ça engendre plusieurs problèmes. Donc, le manque de logement, c'en est un. Mais c'est ça aussi, je pense que des fois, pour les ménages vraiment les moins nantis qui ont de la difficulté à sortir de cette situation-là, puis ça va être probablement une bonne partie de leur vie ou la totalité de leur vie qui vont être dans une situation peut-être de faible revenu. Je pense aussi à attaquer la situation du revenu. Donc, il y a des ménages aussi qui ont des revenus très faibles, et même si on ajoute du logement, ça leur prendra une aide aussi pour leur permettre de sortir de cette insécurité alimentaire ou autre problème. Donc, je pense qu'on peut attaquer les problèmes sur deux fronts. Donc, oui, manque de logement, il faut en ajouter pour alléger un peu la pression du marché. Mais pour une partie des ménages, je pense qu'il faut être conscient aussi que leurs revenus sont tellement faibles, il faut aussi attaquer au problème du revenu pour ces ménages-là pour leur aider à s'en sortir un peu plus vite. Là. Parce que construire des logements, c'est long. Donc, c'est une solution souvent de moyen long terme, mais à court terme aussi, ça prend des solutions pour aider les ménages de façon plus immédiate là, qui sont dans des situations très difficiles.
Tu parlais d'aide financière pour les locataires plus nantis. Est-ce que les gouvernements ils font un travail ou des mesures pour essayer d'aider la population dans la crise du logement? Puis si oui, est-ce que ça fonctionne? Puis est-ce qu'il y a un certain effet pervers à ça?
Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis à plein de niveaux de gouvernement, que ce soit encore une fois de l'aide au loyer, etc., ou des aides là, pour les ménages à moins augmenter leur revenu, sort juste du logement. Donc, il y a des aides pour le revenu. Donc, ça peut toujours être revu, etc., donc dans les circonstances. Je pense aussi que les gouvernements sont beaucoup dans l'optique aussi d'augmenter l'offre de logement en ce moment. Donc, tous les pays de gouvernement, je pense que le manque d'offres est rendu un peu le message principal sur le marché. Puis, il faut trouver des moyens pour augmenter cette offre-là. Par contre, encore une fois, comme je le disais, ça prend du temps. Faut bâtir sur les changements qu'on a eus récemment. Il y a plusieurs provinces, comme je disais, essaient d'inciter les villes à revoir un peu peut-être leur façon de fonctionner. faut être honnête aussi, je pense que ça prend une meilleure coordination à tous les paliers de gouvernement. Donc, je pense que tout le monde juge que c'est important. Par contre, la coordination pourrait être travaillée. Moi, j'ai entendu multiples exemples où, par exemple, la ville a des projets, là, par exemple, de certains logements peut-être abordables ou sociaux, mais, par exemple, le financement ne suit pas assez vite pour réaliser le projet. Ou des fois, les gouvernements des paliers supérieurs ont des fonds pour des projets, mais ça bloque au niveau de la ville qui regarde le projet, la délivrance des permis et prend du temps. Donc, cette coordination-là, je pense, peut être travaillée en ce moment parce que faut avoir peut-être plus ce sentiment d'urgence. Là. Donc, on sait que c'est urgent, mais je pense qu'il faut vraiment recommencer à avoir ce sentiment d'urgence qu'il faut vraiment accélérer les changements qu'on veut opérer sur le marché pour qu'éventuellement tout le monde soit un peu mieux par rapport à la situation actuelle.
Oui, puis là, tu viens de nous parler un peu des solutions que le gouvernement du Québec et du Canada en ce moment, ils mettent en place pour nous aider. Mais on sait que la crise du logement, c'est un phénomène qui est répandu dans plusieurs pays en Occident. Est-ce qu'il y a un pays qui existe en ce moment qui gère un peu mieux la situation, puis que nous, on pourrait prendre exemple sur lui de certaines politiques afin d'essayer de régler notre problème à nous?
Bonne question. Je pense que la situation n'est pas parfaite partout, donc il y a toujours des success stories un peu partout, mais des fois, il y a des affaires qui fonctionnent moins bien. Je pense que les endroits où souvent ça fonctionne bien, grosso modo, c'est où l'offre est suffisante. Donc, ça permet d'enlever de la pression sur le marché. Donc, je dirais, règle générale, lorsqu'il y a assez d'offres sur le marché, ça aide les ménages. Puis aussi, une question qui arrive souvent, c'est qu'il faut être conscient qu'il y a des ménages qui jamais vont être capables de se loger au prix du marché. Donc, il y a des ménages qui vont être souvent dans les moins nantis à faible revenu. Et quand je parle ici d'augmenter l'offre, je parle souvent d'offre de façon très générale, mais ça veut dire aussi augmenter l'offre pour les ménages aussi à faible revenu. Ça peut être les coops, les logements sociaux, les logements à but non lucratif. Donc, il y a plusieurs options possibles. Mais aussi, ajouter des logements au prix du marché, parce que quelques études là, quand même économiques qui montrent que, grosso modo, il y a en anglais, ils appellent ça le « filtering effect » ou on pourrait appeler ça l'effet chaîne un peu. C'est que si vous construisez du logement neuf qui est cher, parce que ça coûte cher à construire, mais des ménages avec des revenus moins élevés qui ont peut-être parti de leur logement moins cher pour aller dans ce logement-là qui est plus récent. Ça va libérer leur logement à eux qui était un peu moins cher, qui va être pris par quelqu'un d'autre et ça va avoir des effets jusqu'en bas de la chaîne où des ménages avec des revenus peut-être plus faibles vont pouvoir aménager dans quelque chose qui s'est libéré, qui est un peu mieux. Donc, cet effet-là est profitable. Puis, peut-être, vous allez peut-être pas me croire, vous êtes quand même relativement jeune, mais au milieu des années 90, au Québec, les taux d'inoccupation un peu partout étaient à près de 6-7%, qui est loin des taux actuels là, de 1% à peu près. Puis à l'époque, lorsqu'on regardait la hausse des loyers, là, à l'époque des 6-7% de taux d'inoccupation, puis juste petit recul aussi, c'est il y a eu beaucoup de construction dans les années 80 d'appartements locatifs. Il y a beaucoup d'offres qui étaient arrivées par rapport à la demande. Ça fait augmenter les taux d'inoccupation à peu près 6-7% au milieu des années 90. Puis avec des taux d'inoccupation aussi élevés, les hausses de loyers, à l'époque, étaient peut-être de 0,5-1% par année. Ce qui est en bas de l'inflation de l'époque. Mmh. Donc, vous voyez, en termes réels, là, il n'y a pas d'hausse de loyer. Puis bon, pour être honnête, au milieu des années 90, j'étais jeune adolescent, fait que je ne disais pas la section économie dans les journaux ou la télé, là, pour être honnête, mais je disais ça sur toute réserve. Mais à l'époque, on avait des taux aussi élevés. Je pense qu'il y avait des mois gratuits donnés par les propriétaires, tout ça, parce qu'on courait après les locataires un peu dans ce temps-là. Je suis pas mal certain qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup moins de cessions de bail, d'éviction, de registre de loyer, de toutes les lois et règlements qu'on parle présentement, juste parce qu'on avait assez d'offres sur le marché. Et encore une fois, ça prend des règlements pour les relations propriétaires-locataires. Ça prend un certain minimum pour gérer ces relations-là. Donc, c'est normal d'avoir une réglementation. Par contre, il y a une partie du problème qui peut être réglée en ayant juste assez d'offres sur le marché. Et déjà, ça va permettre d'enlever peut-être des phénomènes de rénoviction comme on parle à l'occasion ou d'autres phénomènes là, comme on a parlé dans les médias beaucoup au cours des derniers mois.
Mon Dieu, je ne savais pas qu'il y avait un taux de 7% de l'occupation en 1980.
On n'a pas vu ça.
Ça a l'air impossible un peu. Là. Mais sinon, on se demandait, je sais que tu as parlé tantôt qu'à Montréal, dans les années 2000, il y avait eu une crise du logement, une petite crise du logement. Est-ce qu'il y en avait eu d'autres au Québec avant ça? Puis sinon, comment ils se sont résorbés? Comment ils ont réussi à sortir de ça?
Bien, je voudrais nous donner, si on parle du marché locatif, on revient un peu des années 90, donc c'est les années où il y avait beaucoup de logements disponibles, de taux d'inoccupation. Donc, disons, la première plus récente à travers nos données, c'est le début des années 2000, là, dans le cas de Montréal. Puis comme je dis, c'était surtout Montréal, Québec, avec des taux d'occupation très faibles. À cette époque-là, le Montréal, disons, avait peut-être le pouvoir d'attraction plus grand que maintenant. On sait maintenant, les derniers chiffres qu'on a eus attirent plus beaucoup de gens du reste du Québec. Au début des années 2000, ça allait un peu mieux, là, ça attirait un peu plus. Donc, il y avait beaucoup de demandes de logements. Puis aussi, il faut savoir, la grosse récession des années 90, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acheté pendant cette période-là, qui sont restés locataires parce que c'était une grosse récession. Puis ça fait en sorte que le taux d'occupation de 6-7 % je vous parlais, dans les années 90, a fondu jusqu'à 0,4 %, là, 1 % au début des années 2000. Donc, il y avait un effet de migration un peu à l'intérieur du Québec, mais aussi un effet de fin de récession où les gens sont restés locataires et ne pouvaient pas acheter parce que la récession était dure. Donc, c'est la première récession peut-être plus récente qu'on a eue. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour sortir de ça? En fait, c'est que, je dirais, c'est même pas de l'offre qui est arrivée à cette époque-là, parce qu'on a construit très peu d'appartements locatifs au début des années 2000 à Montréal. Là, c'était vraiment le condo qui dominait beaucoup plus que le locatif. Qu'est-ce qui a permis à cette époque-là de sortir de la situation? C'est les jeunes de cette époque-là avaient des bons emplois. Le prix des maisons n'était pas très élevé comparé maintenant par rapport à leurs revenus. Donc, on a eu une grosse période là, de 2000 jusqu'à un peu à la récession financière de 2008. Là. On a eu une grosse période d'accession à la propriété. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de logements qui se sont libérés dans le Grand Montréal. Puis ça a permis d'augmenter le taux d'occupation sans nécessairement qu'on ajoute beaucoup d'offres sur le marché. Donc, les taux ont augmenté peut-être jusqu'à 3-4 % vers les années, disons, 2015-2016, dans ce coin-là, 2013-2015-2016. Puis à partir de 2016 environ, on a commencé à construire beaucoup de locatifs. Donc, l'offre a augmenté. Mais là, je reviens à ce que je vous disais il y a peut-être en début de podcast, là, que bien là, la migration internationale a commencé à exploser. Donc, il y a plusieurs personnes qui arrivent de l'étranger qui louent. Ça met de la pression sur la demande. Et les prix aussi ont commencé à augmenter beaucoup dans le marché de l'achat. Donc, les jeunes ont commencé à rester de plus en plus locataires, pas propriétaires. Donc, même si on ajoutait de l'offre et de l'offre et de l'offre sur le marché, dans le marché locatif, des nouveaux logements, la demande est tellement forte que les taux d'occupation ont fondu de 4 % à peu près à 1 % dans le Grand Montréal, puis un peu partout au Québec aussi. Donc, chaque période a un peu ses propres caractéristiques. Chaque période avait ses propres solutions. Certaines peuvent se réappliquer, d'autres pas. Donc, je pense que, par exemple, la solution d'accéder à la propriété en ce moment, là, je pense pas que c'est ça qui va résoudre la crise en ce moment. Et c'est pour ça que nous, on mise beaucoup sur trouver toutes les pistes de solutions possibles, là, revirer toutes les pierres pour faire en sorte que l'offre de logement augmente. Puis ça peut, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement de la construction, mais ça peut être des personnes âgées qui sont dans des grandes maisons avec 2-3 chambres à coucher de vide, mais peut-être en louer, tu sais, pour certains étudiants qui cherchent quelque chose. C'est pas pour tout le monde, là, on s'entend, mais ça rajoute de l'offre. Transformer un garage ou un sous-sol en unité locative, donc on peut transformer le sous-sol puis on le loue. Donc, c'est pas une nouvelle construction, mais ça ajoute de l'offre. Donc, c'est des petites solutions comme ça, rajouter aussi beaucoup de nouvelles constructions qui, en bout de ligne, vont faire en sorte qu'on s'en sorte. Mais, encore une fois, c'est un travail, de longue haleine là, qu'on a devant nous.
Oui, bien, c'est sûr que, en tout cas, personnellement, ça ne sera pas moi qui va, dans les prochaines années, aider à diminuer la consommation de logement en achetant une maison, ça, c'est certain. Mais, tu mentionnais certaines solutions qu'on voulait revirer toutes les pierres pour essayer de trouver toutes les solutions possibles. Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place plus à court terme pour alléger un peu les symptômes de la crise du logement en ce moment, sans vraiment penser à long terme, plus vraiment sur en ce moment qu'on pourrait effectuer?
Bien, je crois que quand les taux vont commencer à baisser, ça va déjà être, c'est plus conjoncturel, mais ça va déjà être pas dans la bonne direction de faire, quand les taux vont baisser, quand l'inflation va être contrôlée, toujours sous réserve de l'inflation contrôlée. Ça va déjà être un pas dans la bonne direction. Je pense que ça va permettre d'alléger beaucoup. Je pense que je vais mettre ça quand même dans le court terme. Je pense que certaines municipalités peuvent commencer aussi à changer un peu leur culture en termes de réglementation, temps d'approbation, tout ça. Puis je vois déjà beaucoup de volonté de ce côté-là. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire relativement dans un espace de temps assez court. Et tu sais, juste à ce sujet-là, je donne un exemple. Mais il y a fin février à Québec, était adopté le projet de loi 31. Qui, en partie, regardait les relations propriétaires-locataires, cession de bail, éviction, là, c'est une partie. Mais il y avait une autre partie du projet de loi où la province donnait le pouvoir aux municipalités d'approuver des projets résidentiels qui ne sont pas conformes nécessairement à leur réglementation. en sautant certaines étapes. Donc, les référendums, c'est des gens qui ne veulent pas de tels projets dans leur secteur. Des comités consultatifs où un comité regarde si le projet fait du sens, etc. Donc, on permettait aux villes de sauter ces étapes-là pour approuver le projet plus rapidement. Une des conditions, c'est que les projets soient sociaux, abordables, communautaires ou si la région a un taux d'occupation sous les 3 %. Et ça, c'est l'ensemble du Québec, grosso modo. Donc, à peu près toutes les villes pourraient l'appliquer. La question, c'est est-ce que les villes vont vouloir utiliser ce super pouvoir-là? Donc, tu sais, vous connaissez sûrement la phrase « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Donc, les villes à qui j'ai parlé puis que j'ai vu dans certaines conférences, sans me dire « bien, on est en train d'évaluer ça », certains disent « c'est une approche un peu nucléaire, ça n'a pas quoi faire avec ça, c'est pas un bord ouvert non plus », mais on donne des outils pour leur permettre d'accélérer. Est-ce qu'ils vont les prendre, ces outils-là? C'est la question qui reste à déterminer. Je pense, dans votre coin récemment, Magog a fait les manchettes parce qu'a accepté un projet en enlevant la partie référendum. Donc, ça, c'est un exemple de la ville qui utilise un de ses nouveaux super-pouvoirs. Donc, est-ce que d'autres villes vont suivre? C'est la question, disons, qui est en suspens. Mais il y a des outils à court terme. La question, c'est est-ce qu'ils vont être utilisés? Ça, c'est la question reste ouverte pour le moment. OK.
Sinon, selon vous, pensez-vous que la crise du logement pourrait se résorber à plus long terme? Puis si oui, environ quand?
Mon Dieu, ça, c'est toute une question.
Ouais, une question,
c'est une très bonne question. Ben, je réponds, on reste optimiste. J'espère que oui. Espérons que oui. Quand on a sorti notre un rapport, on a dit qu'il manquait des millions d'unités à travers le pays, là, grosso modo. Par-dessus, qu'est-ce qu'on construit déjà? Il faudra acheter des millions par-dessus pour avoir un marché abordable puis absorber la croissance démographique des prochaines années. Il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était un objectif qu'on dit que c'est un objectif qu'il faut atteindre. Bon, vraiment un objectif impossible à atteindre. Là, c'est quand même beaucoup de volume de mise en chantier. Mais notre but, c'est plus d'envoyer un signal dans le marché pour dire, vous savez, le manque de logements, là, on n'est pas à 5 000, 10 000 logements près. Là. Il en manque vraiment beaucoup. Et c'est peut-être le temps de s'attaquer à ce problème-là de façon, avec un sentiment, comme je reviens, un sentiment d'urgence plus important de ce qu'on avait avant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de volonté à tous les paliers de gouvernement pour s'attaquer à ça. Puis je sortais aussi des gouvernements parce que, tu sais, c'est à faire autant de logements, on parle, tu sais, de trillions d'argent. Tu sais, c'est énorme. Puis ça prend l'industrie privée aussi. Ça prend le milieu communautaire, ça prend les coops, ça prend les organismes sans but lucratif. Et donc, mon souhait, et je pense que notre souhait qu'on a, c'est que tout le monde réussisse à être alentour de la table pour trouver des solutions parce que les gouvernements n'ont pas les moyens pour régler la situation tout seul. L'industrie privée n'a pas les moyens pour régler ça tout seul. Les organismes lucratifs, coop, etc., n'ont plus les moyens pour s'occuper de ça tout seul. Donc, ça va pas en prendre une coordination. Puis, je pense que tout le monde pousse dans la même direction pour qu'on sorte de la situation. Puis, quand on a sorti notre truc sur le manque d'offres, j'avais souvent le truc, oui, mais les ménages à faible revenu, puis c'est pas un jeu à somme nulle ici. C'est pas parce qu'on fait du logement privé qu'on peut pas faire du logement social ou sans but lucratif, puis c'est pas parce qu'on fait du logement sans but lucratif de coop qu'on peut pas faire du logement privé. Juste à ajouter de l'offre diversifiée sur le marché, ça va profiter à tout le monde, puis il faut travailler dans ce sens-là, mais encore une fois, c'est un gros mandat. Mais je pense que si tout le monde, y met du sien, là, c'est possible d'y arriver éventuellement.
Bon, bien, sur ces prévisions qu'on souhaite qu'ils vont se réaliser, on aimerait vous poser une dernière question. Là. C'est la dernière question qu'on pose à tous nos invités puis qu'on leur demande un peu de se casser la tête pour essayer d'y répondre. Mais si on vous laissait un panneau publicitaire au-dessus de l'autoroute la plus passante du Québec, du Canada, du monde, quel message vous aimeriez passer aux gens qui vont voir ce panneau-là? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, une expression. On aimerait savoir quel mot, quel message vous aimeriez passer à la population là-dessus.
Par rapport à l'habitation en général?
En général, ça peut être sur n'importe quel sujet.
Je vais aller avec ma formation d'économiste, si ça ne dérange pas. parce qu'on fait quand même beaucoup de prévisions. Je dis aussi beaucoup de prévisions de d'autres organismes dans le marché de l'habitation. Puis, je pense que le message que j'aurais en tant qu'économiste, surtout par rapport aux prévisions, serait restez humble lorsque vous faites des prévisions.
C'est quelque chose qu'on apprend assez rapidement à l'école en général, de rester humble sur nos prévisions en tant qu'économiste.
Oui, donc ce serait quelque chose que j'ai appris. Là, donc, c'est quand on fait une prévision, on essaie d'y aller avec la meilleure information qu'on a sous la main. le meilleur guess possible. Puis on fait de la modélisation. Nous, on va chercher de l'information terrain, tout ça. Des fois, on réussit, puis des fois, on se trompe. Des fois, on se trompe aussi de beaucoup. Puis je pense que rester humble dans cet exercice-là, ça permet de passer au travers.
Bon, ben parfait. Et sur ce superbe message, j'aimerais encore vous remercier de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous aider à mieux comprendre la crise du logement. Puis je vous souhaiterais une bonne fin de soirée. Là.
Ah, merci beaucoup.
Merci. À vous aussi.
Merci. C'est malheureusement la fin de ce superbe épisode sur la crise du logement. Encore une fois, on a eu un invité exceptionnel. On le remercie encore pour tout le temps qu'il nous a accordé. C'est un sujet, encore une fois, d'intérêt qui est encore très d'actualité en ce moment. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis j'espère qu'on va pouvoir avoir la chance de vous en sortir un autre bientôt sur un prochain sujet qui va pouvoir vous intéresser.
Oui, vous pouvez nous rejoindre sur notre Instagram, cossessa.pod, notre LinkedIn, où vous allez pouvoir retrouver nos épisodes qui sont disponibles sur Spotify, Apple Balados. Merci à la CEFAC de nous prêter le studio encore et à Tendresse pour la belle musique que vous avez entendue dans les transitions. Et si vous avez des idées de sujets, gênez-vous pas, on est preneurs. Merci et à la prochaine.
Yes, merci de nous avoir écoutés encore une fois.